Galade. 100.9.
Parlons équilibre. Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlons Équilibre, une émission préparée par l'association Équilibre et moi sur Calade 100.9. Aïe, j'ai mal! Est-ce grave, docteur? Elle est fréquente, constante, intermittente ou oppressante. Elle est chronique, confuse, sourde ou aiguë. La douleur pose question. Et pour en parler, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le docteur Martin Bonacieux, président du CLUD, Comité de lutte contre la douleur, de la Polyclinique du Beaujolais, avec qui nous parlerons ce soir, et vous l'avez bien compris, de la douleur. Bonsoir, docteur.
Bonsoir Nadjet, merci de me recevoir.
Avant d'aborder ce thème qui pique, dites-nous un peu, dites-nous-en un petit peu sur vous. Allez.
Ben, moi je suis médecin anesthésiste réanimateur, j'ai 36 ans. J'ai fait mes études en région lyonnaise, j'ai d'abord exercé dans le cadre de la réanimation, qui est un univers assez agressif, avec beaucoup de souffrance pour les patients, pour les proches. Donc j'ai été à ce moment-là confronté à des douleurs et des souffrances très fortes. J'ai exercé également à l'hôpital en anesthésie. Et dans ce cadre-là, j'ai pu m'intéresser à des techniques alternatives comme l'hypnoanalgésie, pour laquelle j'ai bénéficié d'une formation et que j'ai pu intégrer un petit peu à ma pratique. Puis j'ai continué mon aventure à la Polyclinique du Beaujolais avec essentiellement une activité en anesthésie, donc prise en charge des patients avant une intervention, au bloc opératoire et dans la période périopératoire, l'après, donc où il y a bien sûr des grandes problématiques de douleur aiguë. Et puis on m'a proposé de prendre la présidence du CLUD, comme vous l'avez dit, Comité de lutte contre la douleur de la Polyclinique, il y a maintenant un an.
Et c'est quoi le CLUD alors? Que fait-on dans un comité comme celui-là?
Le CLUD, c'est une institution obligatoire pour une structure de santé, comme il y en a d'autres, pour la gestion des infections nosocomiales, pour l'organisation du bloc opératoire. Il y a différents comités qui se réunissent à une fréquence régulière. Donc, le CLUD, c'est présidé par un médecin, mais il y a également beaucoup d'autres intervenants. Des paramédicaux, des aides-soignants, des infirmiers, des auxiliaires de puériculture, des sages-femmes, des cadres de service, et puis l'administration, les responsables qualité, les responsables communication, et des personnes comme vous, des référents des usagers, qui nous apportent justement un regard un peu plus extérieur, un peu plus, on va dire, naïf par rapport à nous qui sommes plus techniques.
Tout à fait. Dites-nous, docteur, qu'est-ce que la douleur? Comment la définit-on et comment se traduit-elle?
Alors, j'ai pris des petites antisèches. Je dis souvent, quand on a un petit cerveau, on a un grand cartable. Donc, la définition de la douleur, c'est défini par l'OMS, la douleur. Oui. L'OMS, elle nous dit que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle, j'insiste sur chaque terme, désagréable, associé à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes. Et moi, quand je m'occupe de douleur, quand j'échange avec d'autres professionnels autour de la douleur, j'aime bien reprendre cette phrase, parce que souvent, les professionnels, ils définissent la douleur par une expérience sensorielle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle.
Oui.
Sauf que la définition, là, on en oublie le côté émotionnel.
Oui.
Le côté potentiel de la lésion,
oui.
Voire même le côté « je décris quelque chose que personne d'autre que moi ne peut voir ».
D'accord.
Et ça, dans la douleur, c'est très important parce que la douleur, c'est très personnel.
D'accord. Très bien, docteur. Mais expliquez-nous d'abord pourquoi avons-nous mal?
Ah. Alors, la douleur, initialement, et dans le cadre de l'évolution, c'est un stimulus qui est là pour nous alerter.
Oui.
D'accord. Quand on met la main sur la plaque de gaz, on se brûle, ça fait mal, on enlève la main.
D'accord.
C'est pour éviter de se brûler la main.
D'accord. C'est un signal, en fait. C'est un petit signal d'alarme.
C'est un signal d'alarme. Là, on parle de l'idée de base,
oui,
de pourquoi
oui.
l'évolution a fait que notre corps nous envoie des informations douloureuses.
Oui.
Mais finalement, comme souvent dans l'évolution, ça s'est un peu complexifié. Mm-hmm. Et donc finalement, la douleur, elle est traversée par plein d'autres concepts qui sont personnels à chacun. Souvent, on parle de l'homme comme d'un être biopsychosocial. Donc il y a la biologie, j'enlève ma main pour ne pas la brûler. Mm-hmm. Il y a la psychologie, mon vécu, mon histoire. Mm-hmm. Et puis il y a le côté social aussi, comment je m'intègre dans la société. Mm-hmm. L'image que je renvoie, parfois la douleur, c'est aussi une manière de communiquer. Mm-hmm. Pour être entendu quand parfois on a l'impression de ne pas l'être assez.
D'accord. Et tous ces aspects-là sont indissociables, c'est ça que vous voulez nous faire comprendre,
docteur ? Ils sont indissociables parce qu'ils sont tous présents en même temps chez une même personne.
Oui.
Et pour nous, soignants, ils sont indissociables parce que il faut tous les prendre en compte pour pouvoir prendre en charge les personnes.
D'accord.
J'en veux pour preuve.
Oui.
Nous, en anesthésie, en chirurgie, on fait des actes reproductibles.
Oui.
D'accord ? La lésion tissulaire, elle est reproductible. Je fais une prothèse de hanche à une personne, je sais ce que je crée comme lésion tissulaire. Et pourtant, il y a des personnes qui vont avoir des prothèses de hanche qui vont vous dire « Oh là là, j'ai pris aucun médicament, docteur, j'ai pas eu mal, c'était super. »
Oui.
Et puis d'autres qui vont dire « C'était affreux, il n'y a rien qui me soulage. » Pourquoi ? Ben parce qu'on n'a pas tous la même histoire. On n'a pas tous
la même sensibilité.
La même sensibilité. On n'a pas tous la même sensorialité. Mm-hmm. Hein, certaines personnes ont des réseaux neuronaux hyperactifs. D'autres ont peut-être moins appris à s'écouter. Il y a aussi le vécu de la pathologie.
Oui.
Est-ce que ça fait longtemps que j'ai du mal à marcher ? Est-ce que c'était important pour moi de marcher ? Il y a le vécu du soin. Est-ce que j'ai eu dans mon histoire des soins qui se sont mal passés ? Dans la formation hypnose, on nous disait qu'il faut 5 soins non douloureux pour oublier un soin douloureux.
Ah.
On parle par exemple des piqûres. Une prise de sang, objectivement, ça ne fait pas mal. Pourtant, il y a des personnes qui tombent dans les pommes. Il y a des personnes...
À la vue de la seringue.
Exactement. Des personnes qui ferment les yeux quand on en voit dans les films. Je pense à mon épouse. Et... D'où ça vient, ça ? D'où ça vient ? Eh bien, probablement que ça vient du vécu. Et c'est là que la question du psychosocial intervient. Et ça, c'est intéressant à prendre en charge.
Très bien.
Vous avez pu remarquer que j'étais relativement bavard, du coup, j'oublie les questions que vous me posez.
Oui. Donc, si je comprends bien aussi, docteur, donc pour comprendre une douleur, il faut prendre en compte donc, la cause physique. C'est ça, mais aussi et surtout le ressenti de la personne physiquement et moralement.
Tout à fait, tout à fait.
Oui.
Moi, je prends souvent l'exemple de ce qu'on appelle la salle de surveillance post-interventionnelle, la salle de réveil.
Oui.
Après une opération, on se réveille. Et y a des personnes qui, en se réveillant, disent « j'ai mal, j'ai très mal, soulagez-moi », qui sont bloquées dans le lit, qui n'arrivent pas à bouger.
Oui.
Donc l'infirmière nous appelle, « Docteur Bonafieux, votre patient, là, qui a une prothèse de hanche, il a très mal. » Moi, j'essaye au maximum de toujours venir voir les gens.
Oui.
Et la première chose, généralement, que je leur dis, c'est « Votre opération s'est très bien passée. Hein? » Et le niveau douloureux, il descend, sans avoir même fait la moindre perfusion. Bien sûr, il y a des gens qui ont quand même mal.
Oui. Hein?
Et là, il faut leur faire des perfusions, de la morphine, etc. Je veux dire, on marche sur les deux jambes.
Oui. Dites-nous, docteur, quels sont les types de douleurs qui existent ?
Alors, sur le côté biologique, physiologique, on décrit généralement deux grands types de douleurs.
Oui.
Premièrement, la douleur par excès de nociception. C'est-à-dire, la nociception, c'est la stimulation nerveuse qui dit à notre cerveau qu'il y a une lésion tissulaire en cours.
Oui.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est un coup. La nociception, c'est quand on se cogne, quand on se coupe.
C'est très clair.
Voilà, c'est la douleur la plus basique. Après, il y a les douleurs qu'on dit neuropathiques, où là, ça commence à être quelque chose d'interprétatif, mais au niveau physiologique.
D'accord.
C'est compliqué, ça.
Oui.
C'est-à-dire que notre système nerveux commence à envoyer des informations à notre cerveau qui sont erronées et qui sont perçues comme de la douleur.
D'accord.
Je m'explique.
Oui.
On voit, par exemple, des personnes qui ont besoin qu'on les pique toujours au même endroit.
Mm-hmm.
Une chambre implantable, par exemple, mm-hmm. pour les passer les chimiothérapies, où on va faire une piqûre qui, en soi, d'un point de vue de la nociception, c'est assez faible.
Oui.
Mais par la répétition de cette stimulation, le corps va activer des boucles neuronales
oui.
qui vont être hyper excitées et donc hyper excitables et qui vont créer de la douleur qu'on va dire neuropathique.
D'accord.
Et là-dessus, les traitements antalgiques usuels ont très peu de prise. Et souvent, ce qui marche,
oui.
c'est des traitements qui, à la base, n'étaient pas du tout créés pour ça, qui avaient
oui.
été créés dans le cadre de l'épilepsie. Ce sont
d'accord.
des traitements qui jouent sur l'influx nerveux, sur la transmission de l'information, parce qu'on a un défaut de transmission d'information dans ces douleurs dites neuropathiques. Et puis après, dans le champ de la douleur,
mm-hmm.
On peut évoquer la souffrance,
oui.
qui finalement pourrait paraître comme un synonyme, mais qui va un peu plus, moi j'aime bien ce terme, entre guillemets,
oui.
qui va plus intégrer le côté psychosocial
d'accord.
de la douleur. Je souffre,
oui.
docteur. Mais pourtant, votre scanner est normal.
Oui.
Pourtant, vous avez bien cicatrisé. Oui, mais je souffre.
Mm.
Et c'est là qu'il faut savoir entendre d'autres choses. Et ça, c'est plus dur.
D'accord, je comprends bien. À partir de quand une douleur devient pathologique ?
Quand j'ai lu cette question, puisque je vais déflorer le sujet, j'ai lu les questions avant. Quand j'ai lu cette question, je me suis retrouvé bien embêté pour y répondre. Mm. Le normal et le pathologique, c'est un peu compliqué. Hein.
Mm-hmm.
Où est la norme ? Moi, j'ai envie de répondre assez simplement à... Quand est-ce que la douleur devient pathologique ? Quand elle devient envahissante pour la personne.
D'accord.
Quand la douleur est souffrance.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on voit, en particulier en post-opératoire, j'y mm-hmm. reviens souvent, c'est le cœur de mon métier. Mm. Il y a des personnes à qui on dit « Mais est-ce que vous avez mal ?» Ils disent « Oui, mais j'ai été opéré. C'est normal. »
Oui.
Finalement, c'est pas problématique pour eux. Cette douleur est pas pathologique.
Oui.
Ils comprennent que oui, leur corps leur envoie une information,
mm-hmm.
ils la traitent,
mm.
ils décident un petit peu de l'ignorer, ils n'ont mm-hmm. pas forcément besoin qu'on aille donner des traitements. Elle est là, mais elle n'est pas pathologique. La douleur, elle est pathologique quand elle est envahissante.
D'accord. Ce sont par exemple les douleurs chroniques ?
Ah ben, les douleurs chroniques, c'est l'extrême de la douleur pathologique. Ça, c'est sûr.
D'accord.
Disons que vous avez peut-être raison de dire qu'une douleur devient pathologique quand elle se chronicise. D'ailleurs, Nadjet, comme vous parlez de douleur chronique,
mm-hmm.
je vais me permettre de donner quelques chiffres, puisqu'en 2015, la Société française d'études et de traitement de la douleur, qui est la société savante qui s'occupe
oui.
de douleurs en France, donc édicté un livre blanc qui voulait faire un état des lieux de la douleur en termes de ce qu'on appelle la prévalence, donc
oui.
le pourcentage de population touchée, et puis de filières de soins, de manière un peu à alerter le politique pour dire comment est-ce qu'on structure la prise en charge de la douleur, quel est le besoin, comment on fait. Ils ont pu relever dans différentes études que la douleur chronique, c'est 20% de la population, c'est une
ah,
personne
oui.
sur 5.
C'est énorme,
c'est énorme.
Docteur. Ouais.
C'est énorme. Et c'est un véritable enjeu de santé publique. Je m'explique. Parmi ces une personne sur cinq, il y en a près de la moitié, 44%, qui déclarent qu'elles se sentent seules dans ce combat.
Mmh.
Il y en a 2 sur 3 qui se disent anxieux ou déprimés du fait de cette douleur. Et vous voyez venir.
Oui.
Ce qui en découle, c'est que près de la moitié, 45% des patients douloureux chroniques, ils ont une moyenne de 4 mois d'arrêt de travail par an.
Ah oui.
Ce qui est énorme. Pour l'intégration sociale, le travail...
Bien sûr,
c'est...
bien sûr.
Donc la douleur chronique, c'est un véritable enjeu.
Mmh. Dites-moi, docteur, est-ce que l'on peut contrôler sa douleur ?
Oui. Oui, on peut, mais c'est pas facile.
D'accord. De quelle manière, par exemple ?
Bah déjà, premièrement, ce qu'on appelait l'excès de nociception,
oui.
la douleur bête et méchante,
mm-hmm.
il y a des traitements antalgiques qui existent par de la consultation médicale. Souvent, les échecs d'ailleurs de prise en charge analgésique on va dire sur de la douleur aiguë mm-hmm. post-opératoire, ils viennent un peu d'une méconnaissance et d'un mésusage des médicaments.
D'accord.
Les gens ne veulent pas prendre parce qu'ils ont peur des effets secondaires. Mm-hmm. Ils ne veulent pas associer. Ils mm-hmm. ont peur que les médicaments ensemble, ça ne fasse pas bon ménage. Mm-hmm. Et finalement, ils prennent très peu des médicaments qu'on leur donne ou alors à mauvaise fréquence. Et par une meilleure éducation, on pourrait mieux contrôler cet excès de nociception. Ensuite, il y a la prise en charge de la douleur plus neuropathique,
oui.
en particulier dans le giron de la douleur chronique, où là, ça demande une consultation un petit peu plus spécialisée,
oui.
même si les médecins traitants sont formés, au courant, et à même de prescrire. Ce n'est pas réservé à mm-hmm. des algologues. Hein. Et d'autant plus que trouver un médecin spécialisé dans la douleur, ce n'est pas si facile. Mm. Et puis après, il y a cette fameuse notion psychosociale
oui.
du vécu, du ressenti.
Oui.
Et alors là, c'est plus compliqué, parce que là, ça fait appel à des ressources internes qui sont parfois profondément enfouies chez les personnes.
Oui, il faut aller les chercher.
Il faut aller les chercher. Mm. Mais il y a des aides qui existent. Et là, souvent, les médecins allopathes traditionnels, dont je suis, hein,
oui.
se retrouve un peu démuni, et c'est là qu'il faut savoir s'appuyer sur d'autres professionnels, ou alors des professionnels formés, pour aller vers la sophrologie,
oui.
pour aller vers l'hypnose, pour aller vers les thérapies cognitivo-comportementales, j'en oublie, mm-hmm. un peu du yoga, il y a tout un tas de choses, de manière à ce que les personnes puissent comprendre en quoi la douleur traverse leur vie, mm-hmm. qu'est-ce qu'elle leur dit, mm-hmm. de leur vécu, de leurs ressentis, de leurs aspirations, parfois déçues. Mmh. Et là, c'est un travail de plus longue haleine. Et dans le cadre, je pense à l'hypnose, parce que c'est ce que je connais le mieux dans tout
oui.
ça, on peut former les personnes à l'auto-hypnose
D'accord,
en quelques séances.
On sait que c'est complémentaire et que ça peut
bien sûr. Et les personnes,
par la même, moins souffrir.
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr. Dans la douleur, il y a une grande composante d'anxiété.
Oui.
Ouais, quand je vous dis que les gens ont moins mal quand on leur dit l'opération s'est très bien passée. Mmh. Il y a une grande composante d'anxiété. Nous, médecins, par habitude, on le voit bien, les personnes chez qui la prise en charge de la douleur va être plus compliquée. Mmh. Il y a des gens qui se posent plus de questions que d'autres. C'est comme ça, il faut savoir les prendre comme ils sont.
Docteur, vous m'avez parlé de Mélodie Gardot.
Oui.
Dites-moi.
Ben, Mélodie Gardot, c'est une chanteuse de jazz que j'aime beaucoup.
Oui.
Qui a une histoire intéressante. Au-delà du fait que c'est une chanteuse formidable, mm-hmm. parce que quand elle avait entre 18 et 20 ans, elle a eu un grave accident de la circulation. Elle s'est fait, je crois, percuter par une voiture, elle était en vélo. Elle a eu un polytraumatisme sévère, fracture multiple, des lésions cérébrales.
Donc une dame qui a beaucoup souffert.
Elle a beaucoup souffert. Mm-hmm. De la réanimation, ce que moi je faisais avant d'ailleurs, de la réanimation traumatologique. Mm-hmm. Puis des soins de suite, du SSR, de la rééducation à... parcours du combattant, mmh. Pour les patients, c'est un parcours du combattant. Elle avait des douleurs chroniques, des douleurs neuropathiques. Et elle est arrivée à la musique par la musicothérapie, parce que la musique l'aidait à traiter ses douleurs. Moi, la musique, je l'utilise beaucoup dans ma pratique, mais en support, c'est-à-dire que je demande aux gens ce qu'ils veulent écouter avant de s'endormir. Je leur mets leur musique et ça va tout de suite mieux.
D'accord.
Et cette chanson qui s'appelle « Who will comfort me ?» qui veut dire « Mais qui va me réconforter ?» Je trouvais que ça collait bien avec la problématique du jour.
On l'écoute ? C'est parti.
My soul is so weary. My soul is so weary. My soul is so weary. I said my soul is weary now. My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day love day, day love day, day love day, day. hold out my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Gotta hold out my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me?
Comfort Me sur Radio Calade et nous recevons ce soir dans notre émission Parlons Équilibre Martin Bonacieux, président du comité de lutte contre la douleur de la polyclinique du Beaujolais avec qui nous parlons de la douleur. Dites-nous docteur, pourquoi c'est important de dire à son médecin qu'on a mal ?
Alors parfois on s'imagine que les médecins ils doivent tout savoir, c'est même un problème plus large, hein. C'est-à-dire que les médecins eux-mêmes, on leur a inculqué ça, ce qui veut dire que rarement on entendra un médecin dire « je ne sais pas ». Pourtant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas, tout simplement parce qu'on est des personnes.
Oui.
Donc c'est important de dire à son médecin, mais généralement, je vous rassure, les gens, quand ils ont mal, ils nous le disent.
D'accord. Et justement, comment mesurez-vous la douleur ?
Alors, c'est très simple. Finalement, oui. Ça fait 20 minutes que je vous dis que c'est très complexe. Non, la mesure de la douleur, il y a des échelles. Il y a des échelles qui sont validées par la science. Il y a différents types d'échelles pour différents types de situations. On va d'abord parler d'une auto-évaluation de la douleur.
Oui.
C'est quand on demande aux personnes de donner une note, par exemple, ce qu'on appelle l'échelle numérique.
Ou donc alors entre 1 et 10, c'est ça ?
Par exemple, il y a l'échelle verbale simple qui est sur 5.
Oui.
Il y a des petites réglettes où on déplace un curseur, généralement qui va du rouge au bleu.
D'accord, et c'est nous qui déplaçons le curseur.
Tout à fait. Il y a des chiffres de l'autre côté, mais pour qu'il n'y ait pas la notion de note pour les patients.
D'accord.
ça va de 0 à 10. Mm-hmm. Pour les enfants, c'est des petits pictos, des visages, un visage qui sourit jusqu'à un visage qui hurle.
Vous voyez, très avec ludique, les... bien voilà. sûr. Mm-hmm.
Et puis, ce qui est plus difficile, c'est l'évaluation de la douleur chez les patients non communicants.
Ah oui.
Les tout-petits,
oui.
les nourrissons, les personnes handicapées,
oui.
Les personnes avec des troubles neurologiques sévères, les personnes grabataires, les personnes oui. très âgées. Et là, il existe également des échelles d'hétéro-évaluation, donc d'évaluation oui. par le soignant. Et par exemple, l'échelle Algo+, qui va se baser sur... de la tension, des traits du visage,
ah,
les
oui.
différents critères. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y a l'échelle Evandol, chez le bébé, mm-hmm. on utilise à la clinique en maternité pour les nouveau-nés,
mm-hmm.
parce que scoop, les nouveau-nés ressentent la douleur. On a longtemps
oui.
pensé que ce n'était pas le cas, mais c'est bien le cas.
Bien sûr.
Ça, c'est pour la douleur aiguë.
Mm-hmm.
La douleur chronique, pour la caractériser, c'est plus compliqué, ça demande des questionnaires beaucoup plus longs,
mm-hmm.
Qui vont s'intéresser au psychosocial, beaucoup, à l'environnement familial, les
D'accord.
loisirs, l'état anxieux, l'état dépressif.
D'accord.
Et puis pour les douleurs dites neuropathiques, il faut
oui.
rechercher un défaut d'information, défaut de transmission de l'information par
oui.
système nerveux, donc des sensations de brûlure, des sensations de froid, de chaud, de décharge électrique,
mm-hmm.
de picotement. Des démangeaisons, des engourdissements. Et puis, ce qu'on va appeler l'allodynie. L'allodynie, c'est une douleur déclenchée par un stimulus qui n'est pas douloureux,
oui.
comme le toucher simple,
oui.
qui va entraîner une douleur. Ou l'hyperpathie, qui est un abaissement du seuil douloureux,
mm-hmm.
c'est-à-dire une douleur insupportable provoquée par un stimulus qui est peu douloureux, comme une piqûre,
oui.
Qui a pourtant donné une douleur qu'on va coter à 10 sur 10 ou 12 sur 10.
Oui.
Et ça, ça nous permet de caractériser la douleur chronique.
Oui.
Il y a aussi son cycle nyctéméral, encore un gros mot,
oui.
c'est-à-dire comment elle, dans la journée, comment elle évolue en fonction des mouvements, des positionnements, le jour, la nuit. Parfois, il y a des douleurs qui se réveillent le soir,
oui.
puisqu'on est sur de l'angoisse,
oui.
du rapport à l'angoisse de mort.
D'accord.
Voilà. Là, c'est plus complexe.
Donc, elle existe en termes d'intensité, de nature, de localisation, de durée, de fréquence.
Tout ça.
Tout ça.
C'est compliqué. C'est pour ça que la prise en charge de la douleur chronique, c'est compliqué. C'est
oui.
que ça prend beaucoup de temps pour comprendre,
oui.
pour comprendre la douleur, ses caractéristiques,
oui. Oui.
puis pour comprendre la personne qui oui. souffre.
Mais justement, est-ce qu'il faut comprendre sa douleur pour la soulager ?
Moi, j'en suis persuadé.
Oui.
Alors, ça dépend encore une fois de quelle douleur on parle.
Oui.
Hein, quand vous vous levez un peu vite et que vous vous cognez au pied
ah
du
non,
lit,
c'est horrible.
On n'a pas besoin de la comprendre, cette douleur. Elle s'impose à nous.
Mais on voilà. a besoin de crier quand on a...
J'en profite pour dire à nos auditeurs que scientifiquement, il a été prouvé que proférer des insanités calmait la douleur.
Ah oui, d'accord.
C'est vrai. C'est ce que je dis aux femmes
oui.
En travail. Je leur dis, vous avez le droit de
ah oui.
dire des insultes. Ça fait du bien.
Donc oui, vous pensez que oui.
Qu'il faut oui, je pense qu'il faut comprendre.
Douleur.
Je pense mm-hmm. que le médecin, le soignant en tout cas,
mm-hmm.
le soignant doit comprendre la douleur de son patient.
Mm-hmm.
Ce qui veut dire comprendre son patient. C'est pas toujours simple, on n'y arrive pas tout le temps.
Mm-hmm.
Moi, je le dis aux patients dans le cadre des prises en charge de la douleur. Je leur dis peut-être que je vais pas y arriver. Hein.
Mm-hmm.
Voilà. Et vous avez le droit
mm-hmm.
de trouver que je suis nul.
Mm-hmm.
Et vous avez le droit de pas avoir envie de me revoir.
Mm-hmm.
Voilà. Parce que si on fait pas alliance, en fait. Ça marchera
oui.
jamais.
Ouais.
Et
vous
ensuite,
compris,
le niveau du dessus, c'est que la personne comprenne elle-même sa douleur.
Oui.
Je pense à une personne que je prends en charge. Je pense, moi, avoir compris une partie de sa souffrance,
oui.
qui, étonnamment, est plus de la souffrance morale que de la douleur.
Oui.
Et je n'arrive pas à lui faire comprendre.
D'accord.
Et ça,
Donc, elle continue à souffrir.
Ouais. Malheureusement, oui. Et ouais. je pourrais la bourrer de médicaments qu'elle souffrirait quand même.
D'accord.
Elle ne les prendrait pas ouais. de toute façon.
Et justement, mais... quelles sont les prises en charge de la douleur ?
Alors,
que proposez-vous ?
C'est vrai que j'évoque beaucoup le côté, j'ai répété souvent, psychosocial. Il n'y a
oui.
pas que ça. Hein.
Oui.
Mais je m'attarde dessus parce que c'est mm-hmm. ce qui est le plus mal compris, c'est ce qui est le plus mal pris en charge, ce qui est le plus difficile.
Mm-hmm.
Parce que après, la prise en charge de la douleur nociceptive...
Mm-hmm.
C'est les traitements analgésiques
mm-hmm.
qui peuvent être par voie orale, par voie intraveineuse,
mm-hmm.
par voie locale.
Mm-hmm.
On va pouvoir utiliser des aplats de solutions d'anesthésie locale,
oui.
par exemple. Il y a des traitements, comme je vous disais, qui vont agir vraiment sur la douleur nociceptive, d'autres qui vont agir sur les anomalies de transmission nerveuse, d'autres qui vont agir sur les boucles, un peu de cercle vicieux de la douleur, ce qu'on appelle les boucles de rétrocontrôle. On va pouvoir utiliser de l'anesthésie loco-régionale, on va pouvoir utiliser des perfusions, médicaments type la kétamine en milieu hospitalier sur la douleur chronique. On va pouvoir utiliser de la neurostimulation transcutanée, ce qu'on appelle le TENS, avec des gens qui vont pouvoir l'utiliser à la maison. Il y a plein de choses à faire. Et on va pouvoir utiliser certains antidépresseurs aussi, qui sont pour un effet vraiment neuronal de contrôle de la douleur, et également parfois avec une action sur l'état dépressif et l'état anxieux des personnes douloureuses chroniques. Voilà, ça va être tout l'arsenal thérapeutique.
D'accord.
Et puis, bien évidemment, les soins de support que j'ai décrits tout à l'heure, qui peuvent être l'hypnose, l'acupuncture, la réflexologie, ça c'est... Et l'important, c'est de trouver les bons correspondants, les bons les personnes avec qui on fait une bonne alliance thérapeutique.
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur. La douleur représente aujourd'hui un réel enjeu de santé publique. En France, l'INSERM estime qu'elle serait à l'origine de 2/3 des consultations médicales. Comme vient de nous l'expliquer Dr Martin Bonacieux, la douleur est une sensation complexe, à la fois physique et émotionnelle, d'où l'importance de savoir l'écouter, savoir en parler, savoir la défier, pour peut-être un jour gagner ce combat.
C'est intéressant ce que vous dites, Nadjet, savoir défier la douleur. Et pour un médecin, c'est savoir amener le patient à prendre conscience de sa capacité interne à défier la douleur. Et c'est vrai, dans pas mal de champs médicaux, d'arriver à amener les gens à se faire confiance dans leur capacité à mener ces combats.
Eh bien, je pense, docteur, que vous avez tout dit. Je vous remercie,
merci
docteur
Bonacieux. Merci à vous, c'était un plaisir.
Parlons équilibre touche à sa fin. À très bientôt sur Radio Calade 100.9.
Calade 100.9.
Parlons équilibre.